Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Au programme aujourd'hui, l'histoire d'une icône, un grand poète africain et un décryptage acide de l'adolescence. La réalisatrice Lisa Azuelos publie un roman-récit poignant autour de la chanteuse Dalida, mais pas seulement. Un livre sur notre relation à la vie et à nos histoires amoureuses, loin de la biographie pour fans, un texte qui frôle l'universel. C'est un très grand écrivain et poète africain, nous l'avions repéré il y a quelques années dans cette émission. Le Tchadien Nimrod entre dans la collection Poésie Gallimard, collection de référence. Et puis nous parlerons du dernier livre de Claire Castillon, qui revient avec un recueil de nouvelles. Elle se penche cette fois sur l'adolescence avec son style précis, caustique et décapant.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Aujourd'hui, on accueille une nouvelle libraire. Une fois par mois, vous le savez, nous donnons la parole à un libraire du monde. Alors, tout de suite, on va partir en Égypte, direction le Caire. Bonjour Agnès Debiage.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous dirigez la librairie Oum El Dounia. Alors décrivez-nous cet endroit, cette librairie, que voyez-vous par la fenêtre ou la vitrine?
D'Oum El Dounia, on a une vue panoramique sur la place Tahrir. Et aujourd'hui, inutile évidemment de présenter la place Tahrir, puisque c'est la place où il y a eu la révolution en Égypte en 2011.
D'accord. Et cette librairie, alors, elle est généraliste, c'est ça?
Non, c'est une librairie complètement spécialisée sur le monde arabe, avec les rayons traditionnels d'une librairie, aussi bien jeunesse, sciences humaines, littérature, beaux livres, pratiques, mais uniquement ciblés sur le monde arabe.
Généraliste, mais ciblé, quoi.
Voilà, généraliste spécialisé.
C'est ça. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Agnès. Bonjour, Jérémy Laniel.
Bonjour, Emmanuel.
Il est très calme aujourd'hui, incroyable. Vous êtes libraire au Canada, à Rosemère, dans la librairie Carcajou, toujours efficace, toujours en forme.
Toujours en forme, il le faut.
Très bien.
Pour la littérature.
Oui. En Belgique, on retrouve Annick Dor, libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Et en Suisse, c'est Dominique Bressou, libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour à vous deux.
Bonjour Emmanuel.
La Suisse et la Belgique qui se répondent, c'est magnifique. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Claire Castillon.
Bonjour.
Vous publiez un recueil de nouvelles épatant. Vous nous emmenez comme ça dans la peau, enfin vous vous mettez surtout dans la peau des adolescents. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle qu'on vous laisse choisir. Je découvre en même temps que tout le monde. Vous avez donc carte blanche, Claire. Que voulez-vous raconter aujourd'hui?
Alors c'est personnel, mais voilà, c'était un peu lié à l'écrivain. J'étais dans un salon du livre un jour, ça fait quelques temps quand même. Je ne sais plus si c'était Montsartou, Toulon, enfin je ne me souviens plus exactement.
Ce n'est pas le même endroit. Oui.
Je ne me rappelle pas. J'étais à côté d'une femme écrivain qui signait énormément tout le temps. Et je signais assez peu de livres. Et quand elle est partie déjeuner, ou à un moment elle est partie, je suis restée. Donc il y avait plein de gens qui venaient me voir pour me demander quand elle reviendrait, etc. etc. Donc je répondais. Et puis à un moment, il y a une dame, mais qui était beaucoup plus âgée, et qui était beaucoup plus timide, et qui était beaucoup plus désespérée, qui est venue et qui m'a tendu le livre de ma voisine à signer, comme si c'était moi. Mmh. Et je me suis dit que si je lui disais de repasser, elle serait triste, alors je l'ai signé à sa place.
C'est de l'usurpation d'identité,
ouais,
ça.
C'est pas bien.
C'est pas... Ça a été repéré ou pas?
Pas du tout.
Ah, vous savez pas en même temps?
Non.
Autant elle vous déteste aujourd'hui.
Non, mais je pense qu'elle était contente, parce qu'elle était venue, elle avait fait la démarche, et je me suis dit, tant qu'à faire.
Alors... Mais ça marche pas comme ça, Claire.
Mais non, pas du tout. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée.
Claire Castillon est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Lisa Azuelos.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, on vous doit les films LOL, comme Thiébel, Une rencontre et Dalida, sorti il y a quelques mois. Votre livre Laissez-moi danser est une performance avec un roman qui a priori ne pourrait intéresser que les admirateurs de Dalida. Vous développez un récit profond qui analyse nos comportements à la vie, à nos rapports amoureux aussi. C'est parfaitement réalisé. Votre récit est une perle, Lisa.
Merci.
Nous verrons tout à l'heure si les libraires sont d'accord. Comme Dalida, vous racontez que vous avez eu des tendance au suicide, ça commence par là.
C'est quelque chose que j'ai commencé à éliminer de ma pensée à partir du moment où j'ai eu des enfants. Mmh. Et je pensais que tout le monde était comme moi, en fait. Et en fait, non, je crois que c'est assez personnel, finalement. Parfois, on se dit que c'est une espèce de liberté dont on dispose, en fait. On se dit, bon, bah, je peux éteindre la lumière quand je veux.
Mmh. C'est une liberté, ça?
Dalida pensait que c'était une liberté. Et moi, grâce à elle, j'ai compris que c'était une prison. et que c'est ça que j'avais envie de raconter à travers le livre, c'est qu'en traversant ces ombres à elle, moi j'ai pu trouver un peu de lumière et j'avais envie de la remercier en faisant ce livre.
Mais alors ce livre, vous l'avez écrit après le tournage?
Oui.
Du film.
En fait, pendant la, parce qu'il y a le tournage, mais il y a le montage qui prend plus de temps que le tournage, et il y a la finition du film, et j'ai vraiment terminé le livre 2 jours après la sortie du film.
Alors en tout cas, il y a des accointances entre la vie de Dalida et la vôtre. Oui. Vous racontez ça, on ne peut pas tout raconter parce que sinon on dévoilerait trop de choses. Mais il y a plein de choses. Vous avez vécu d'ailleurs dans le milieu du showbiz, comme on dit, puisque vous êtes la fille d'une très grande comédienne, Marie Laforêt. Et du coup, voilà, il y a des passages au Festival de Cannes, on va y venir dans un instant. Juste avant, vous commencez ce livre avec Dalida, qui tente de mettre fin à ses jours en 1967. Elle est déjà une immense star. Alors son frère l'accompagne à l'aéroport pour un vol vers l'Italie. Sauf qu'elle simule son départ. Dès qu'Orlando aura tourné le dos, elle prendra un taxi, ira dans un grand hôtel parisien et elle va mettre en scène, finalement, le crime parfait, le sien.
C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, à chaque fois, parce qu'elle elle a tenté de se suicider plusieurs fois, dont une réussie, à chaque fois, elle sait que son entourage la sait fragile, donc elle est obligée de déjouer un petit peu leur surveillance proche, voire trop proche parfois. Et là, ils se sont pas doutés qu'elle allait pouvoir échapper à l'avion. Ils l'ont vraiment accompagnée jusqu'à la salle d'embarquement. Et puis au dernier moment, elle a rebroussé chemin et elle avait déjà pris la chambre, la même chambre que dans laquelle elle avait fait l'amour avec son amant pour la première fois. Enfin, c'était vraiment, elle a mis en scène d'aller, c'est plus d'aller rejoindre son amant que de se tuer elle-même finalement.
Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une femme de chambre qui passe et qui a une intuition. Normalement, on ne dérange pas parce qu'il y a le panneau, vous savez, sur tous les hôtels, les portes d'hôtels, on peut même ne pas déranger. Et elle entre quand même et du coup, elle la sauve. La première fois, elle est sauvée.
La première fois, elle est sauvée vraiment à l'issue de son plein gré, comme on dit maintenant. Parce que vraiment, elle voulait pas être sauvée. Elle voulait vraiment aller, elle pensait qu'elle allait rejoindre son amant, ce que je trouve finalement assez enfantin. C'est comme si elle sentait que les mondes n'étaient pas séparés, ce en quoi elle a peut-être raison. Mais c'est génial parfois d'écouter ses intuitions comme cette femme de chambre,
Et l'histoire pour elle commence comme ça. Les drames vont se succéder jusqu'à sa mort, le suicide réussi cette fois, avec tous les hommes qu'elle va côtoyer, en tout cas tous ceux qu'elle aime profondément, qui vont se suicider un par un. C'est un véritable roman. On va écouter la BO du roman justement. On vous a demandé, Lisa Azuelos, quel titre illustrerait le mieux votre livre, comme dans un film. Alors évidemment, on savait que ce serait Dalida et vous avez choisi 3 titres. On en a choisi un pour vous, pour ne pas vivre seul. On écoute un extrait et on décrypte juste après.
Pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. Pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends. Et on les réunit, qu'on vienne les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces. Mais on n'a jamais fait un cercueil à 2 places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi. Je suis seul avec toi, tu es seul avec moi.
Chanteuse Dalida, Pour ne pas vivre seule, titre de 1972. C'est aussi un roman sur la solitude, Lisa Azuelos, ce livre-là.
Moi, je crois qu'à partir du moment où on décide de parler de la vie de quelqu'un qui, en plus, a décidé d'y mettre fin, forcément, on parle de solitude. Et c'est vraiment ça qui m'a intéressée, et dans le fait de faire ce film, et dans le fait d'aller plus loin et d'écrire ce livre.
Alors Dalida va pourtant se marier avec Lucien Maurice, directeur d'une grande radio française, avec qui elle va finalement faire son chemin au début. C'est lui qui va faire d'elle une star. Mais un jour, alors qu'elle vient tout juste de se marier avec lui au Festival de Cannes, qui a commencé justement là, ce week-end quasiment, elle rencontre un autre homme qui ne sait pas qui elle est et qui va la séduire.
Alors, à cette époque-là, c'est très rare qu'on sache pas qui elle est, en fait. Il y a vraiment Bardot et Dalida dans la chanson, donc c'est très rare. Quand il lui demande son prénom, elle est déjà très, très étonnée. Et ça lui permet de vivre une parenthèse enchantée, alors qu'elle est en pleine carrière, tourbillon, mariage. Elle vient de se marier un mois avant, donc... Quand elle le rencontre, tout à coup, elle comprend qu'elle a raté une partie de sa jeunesse. Mmh. Et en fait, en se mettant avec lui, elle se remet à vivre comme si elle était jeune ce qu'elle est, puisqu'elle a à peine 26 ou 27 ans. Mais elle fait que travailler depuis une dizaine d'années, que penser à sa carrière, à sa réussite. Et du coup, elle redevient jeune au Festival de Cannes et insouciante. Et après, ça va évidemment lui poser beaucoup de problèmes.
Alors, elle va se retrouver à Nice, dans les rues du Vieux-Nice, avec cet homme, Jean Sobieski. Le hasard fera que vous allez rencontrer sa fille, vous, alors que vous êtes en vacances, justement, au Cap d'Antibes, dans un grand hôtel qu'on ne citera pas, mais que l'on connaît quand on est de la région. Et alors, à ce moment-là, il y a des photographes quand Dalida est embrassée par Jean dans les ruelles du Vieux-Nice. Et là, Lucien va s'apercevoir de ça, évidemment, parce qu'il y a déjà les magazines, la presse, ça scandale. Et il va lui dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais là? On vient de se marier.
En fait, presque, ça le dérange pas. Ça le dérangerait pas si les gens le savaient pas. Ouais. Parce qu'il est conscient qu'il est pas très rigolo, il est conscient qu'il est plus vieux qu'elle, il est conscient qu'elle est jeune, qu'elle a beaucoup, beaucoup donné. Et puis, il peut éventuellement admettre ça. Mais là, c'est vraiment en une des journaux, c'est atroce. Et en plus, elle regrette pas du tout et elle le quitte à ce moment-là.
Elle le quitte, elle lui laisse l'appartement.
Elle lui laisse l'appartement, ouais. Ça c'est véridique.
Qu'elle a acheté elle-même,
qu'elle a acheté
avec
elle-même.
Les cachets. Voilà. On a retrouvé un son d'archive, une émission de télé d'Arnaud Desjardins, dont elle tombera aussi amoureuse juste après cette émission-là, justement. Juste après cet extrait que vous allez entendre, c'est en 1969.
Je cherche quelque chose.
Qu'est-ce que vous cherchez?
Eh bien, je crois que pour moi, la chose la plus importante, c'est l'amour. Je cherche le vrai amour. Et si je regarde en arrière de mon passé, je peux dire que j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie, mais que ma recherche était toujours l'amour, le vrai.
L'homme et l'amour sont des refuges.
C'est vraiment quand j'ai vu cette interview que ça m'a donné envie de faire le film, en fait. C'est drôle, parce que c'est une autre Dalida qu'on connaît pas.
Ouais.
Et elle était vraiment, elle savait que le rempart à sa solitude et à son envie d'en finir avec la vie, ben c'était l'amour.
Deux libraires ont lu votre roman-récit, hein, on va dire, Lisa Azuelos. Suisse ou Canada, on commence par qui?
Bah, le Canada, parce que j'en viens, j'étais au Québec, parce que
c'est
le film vient de sortir là-bas.
Ah, d'accord.
Je crois que ça marche bien en plus, alors je suis très contente.
Alors, bah voilà, la double promotion pour vous, Lisa, on l'a pas fait exprès en plus. Jérémy Lagniel, au Canada.
Emmanuel, vous dire à quel point j'aime Dalida, sans grande surprise que j'attendais ce livre un peu de pied ferme. D'une certaine façon, je n'étais pas certain que j'allais apprécier le bouquin parce que j'aime trop la femme qu'elle est. Et pourtant, je sous-estimais là, les capacités littéraires d'Azuelos sans jamais être dans la contemplation ni même dans la création de l'idole. Je trouve que l'auteur s'amuse à faire un grand jeu de miroir entre son sujet et elle-même. J'ai aimé peut-être parce que je continue de croire que Dalida est immortelle.
Vous avez vu le film du coup ou pas?
Pas encore, mais ça ne sera tardé.
Il faut y aller dès ce soir. Allons-y pour la Suisse avec Dominique Bressoux.
Moi, je connaissais pas tant la vie de Dalida, ce qui fait que j'ai lu son histoire d'une traite. Et vraiment, j'ai refermé ce livre en étant étourdie, avec le cœur serré pour Dalida. Mais il y avait une petite pointe d'exaspération qui a accompagné toute ma lecture. Parce que, Lisa Azuelos, vous émaillez le récit de réflexions sur les différences entre les hommes et les femmes quand l'amour leur tombe dessus. Mais pour moi, loin de dénoncer, vous renforcez un grand nombre d'idées reçues.
Mmh. Bon, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec Dominique, je vous le dirai, parce que d'un certain côté, je le disais tout à l'heure, ce livre est universel. C'est-à-dire qu'au-delà de l'icône Dalida, voilà, on a parlé de Dalida, on va parler d'autre chose maintenant. Parce que dans ce livre, alors vous racontez toute la vie, les rebondissements artistiques, amoureux, il y a plein d'anecdotes étonnantes, on pourrait rester une heure là-dessus. Mais vous allez beaucoup plus loin, avec un regard profond sur nos relations amoureuses et la solitude qui n'est d'ailleurs souvent pas très loin. Chaque rupture, c'est ce que vous montrez de façon très habile, chaque rupture nous enlève un peu de joie, nous enlève un peu d'insouciance.
Oui. Je sais. Et en même temps, non. C'est-à-dire que le miracle de la vie, c'est de pouvoir justement aller plus loin, c'est de faire un pas de plus, un peu comme proposait Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il disait « va et marche ». Il paraît qu'en hébreu, le malheur, ça veut dire être arrêté. Et en fait, chaque fois qu'il y a une rupture, on s'arrête. Et c'est à partir du moment où on est capable de mettre un pied devant que ça recommence et on peut remettre en branle les choses. Et puis il y a plein de gens qui a 50, 60, même 70. Et j'ai même connu une mamie de 85 ans qui disait « Je suis jamais tombée amoureuse comme ça ». Je pense que l'amour est le plus fort dans tout ça et qu'il y a toujours une capacité à retrouver de la fraîcheur et de la joie. Mais c'est un grand travail interne et c'est ça qui est génial en fait.
On retrouve toujours l'amour, vous êtes convaincue de ça, vous ?
Je pense qu'en fait, l'amour est toujours là et c'est nous qui n'y sommes pas parfois.
Parce que à force d'avoir des ruptures, et c'est le cas de Dalida pour le coup, quand on a des passions amoureuses, quand on est terriblement amoureux ou amoureuse, et qu'on se retrouve comme ça, esselé finalement, avec cette notion d'abandon, vous parlez de la notion d'abandon qui est la pire chose qu'on a inventée pour éviter de s'aimer profondément finalement, on se retrouve un peu diminué, c'est difficile d'enchaîner, non ?
Ah, j'ai pas dit qu'on pouvait enchaîner, par contre.
Non, mais quand je dis enchaîner, passer à autre chose.
Ouais, mais c'est pas pareil, en fait. C'est vrai que parfois, on a tendance à enchaîner. Et là, c'est un petit peu comme quand on s'est foulé le pied. Si on veut tout de suite remarcher derrière, on va finir par vraiment avoir des vraies fractures ou des vraies galères. Non, il y a un temps pour la réparation. Ce temps-là, en général, on en fait souvent l'économie parce que les gens aiment pas... Ils trouvent que ça fait loser. De nos jours, ça fait un peu loser de dire bah, « j'ai mal, je me répare ». Les gens, ils disent « non, mais c'est rien, je vais y aller, je vais me bourrer la gueule, je vais en trouver un de perdu, 10 de retrouver ». Non, c'est pas vrai, un de perdu, oui, je crois vraiment. Oui. À chaque fois qu'on perd quelqu'un, c'est un bout de soi-même qu'on perd. Et c'est intéressant de se dire pourquoi on a perdu ce morceau-là. Est-ce que ce morceau-là était vraiment utile à la continuation de sa vie heureuse ? Peut-être probablement pas. En général, on tombe sur des gens qui sont nos miroirs. Et c'est intéressant de refaçonner une image plus lumineuse dans un miroir que les autres nous tendent finalement.
Mais il y a la rupture de trop avec Dalida. Celle qui fait qu'on bascule dans une mélancolie généralisée. C'est ce qui lui arrive.
Oui, et ça arrive à beaucoup de gens. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est qu'il y a un moment où, moi ça m'est arrivé d'ailleurs, hein, j'ai pas toujours été aussi gaie et joyeuse. Il y a parfois la rupture de trop, mais ça veut pas forcément dire que c'est l'homme qu'on a le plus aimé ou quoi. C'est un moment de vie. C'est un cumul. C'est-à-dire que Dalida, elle est en pleine ménopause. Elle a sa carrière qui commence à fléchir. Elle est moins jolie. Elle souffre énormément des yeux.
Elle a pas eu d'enfant.
Elle est épuisée et elle a pas eu d'enfant. Ouais. Et le tout cumulé, fait que, de toute façon, rupture ou pas, elle aurait été pas très bien. Et elle est mal soignée, à mon avis, et des yeux, et de la mélancolie, beaucoup d'antidépresseurs.
Et vous dites que si Dalida avait eu un enfant, comme vous, vous en avez eu, Lisa Azuelos, elle ne se serait jamais suicidée.
Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont des enfants qui se suicident.
Mais vous, c'est ce qui vous a tenu, c'est ce qui vous a évité de vous suicider à un moment.
Disons que moi, pour éviter de me poser la question, j'en ai fait. C'est pas très courageux, parce que c'est pas très courageux. Hein. Vous savez, quand on n'a pas des racines qui viennent de l'enfance réellement, quand en soi-même on n'a pas eu d'enfance, ce qui est mon cas, c'est intéressant d'aller retrouver une enfance à travers des enfants qu'on crée soi-même. Et moi, j'ai créé mes racines avec mes enfants. C'est pas mes feuilles, c'est mes racines, mes enfants.
Ils le savent, vos enfants, que vous les avez eus pour ça ?
Ils le savent.
Comme un prétexte.
Oh, bah, vous savez, je leur dis tout, ils me disent tout.
Et ça va avec eux, oui.
Et ça va super bien, en fait. Mieux, bizarrement, ça va mieux que les gens qui leur cachent des trucs.
On va terminer avec cette phrase. Vous dites dans le livre, en comprenant ces erreurs, j'ai pardonné les miennes.
C'est vrai.
Merci Lisa Azuelos. Laissez-moi danser, paru aux éditions Stock. Lisez ce livre, même si vous n'êtes pas fan de Dalida. Vous serez surpris, vous verrez. Merci Lisa, vous restez avec nous. À suivre l'écrivain et poète Nimrod avec Le Son du Monde et une grosse surprise. Un grand auteur lira un poème de Nimrod. Ce sera au bord de la mer. Vous entendrez le son de la mer, quasiment. Voici le nouveau titre de Bertrand Burgala en attendant dans la librairie francophone.
Un jour ici-bas, un jour ordinaire. En sympathie pour toi et pour la terre entière. Le supplicié sur la chenille, le fugueur en poster. Typhon amané, tumeur du milliardaire. Je suis l'enfant sur la banquette arrière, le taliban dans un container. Je suis, c'est lui qui dit je suis. Je suis la vie par procuration, le bébé secoué, le futur avorton, le pied au plancher. Je suis la pluie de corps sur les maisons d'Ukraine, le caïd dans le coffre en flamme. Un tankiste libyen dans le viseur sa gemme d'une femme rafale. Je songe à tous les camarades, au paria des lettres sur sa balustrade. La défense, une après-midi pâle, les jardins de Candy en instance de divorce, les changeurs de bagnolet la nuit, les mercuriales, le cirque de la solitude, l'hiver en Corse. Je suis la villa pamplemousse, la verrine et le voiturier, le fusil dans sa housse, le restaurant déserté. Je suis le transistor sur le lit d'hôpital, ces lèvres dont rien ne sort, état de conscience minimale, bientôt fixé sur leur sort. Je suis celui qui dit qu'il est.
Le nouveau titre de Bertrand Burgala, L'enfant sur la banquette arrière, sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vous présentent les coups de gueule et les coups de cœur. Et on commence avec un coup de gueule en Belgique, Annick Dor.
Oui, Emmanuel. Alors, en 25 ans, on a doublé le nombre de titres édités par an, alors qu'en fait, le nombre de lecteurs a diminué. Pour faire court, c'est juste les tirages qui sont moins importants. Mais voilà, les tables de nos librairies, elles ne sont pas allongeables à l'infini. Ça signifie que nous, les libraires, eh bien, on a énormément de difficultés à assurer une visibilité à toutes ces nouveautés, qu'on accueille pour un temps en plus toujours plus court. Donc voilà, c'est à la fois chouette d'avoir une offre abondante et en même temps, c'est terriblement frustrant de ne pas pouvoir les promouvoir comme il le faudrait.
D'accord. On part en Égypte, au Caire, avec Agnès Debiage. Un coup de cœur pour vous, Agnès.
Oui, ce n'est pas mon coup de cœur que je veux vous faire partager, mais les coups de cœur de 19 libraires du monde arabe, originaires de 8 pays différents. Chacun vous livre 3 de ses coups de cœur ayant trait à son pays, sa ville, son univers. Tous sont des témoignages extraordinaires sur les sociétés arabes. Au total, ce sont 57 ouvrages recommandés que vous pouvez pour la plupart obtenir auprès de votre libraire habituel. Ce catalogue, téléchargeable sur Internet, est aussi un formidable hommage au réseau international des librairies francophones qui défend au quotidien la francophonie, la lecture, les livres et les auteurs. Ces libraires sont de petits îlots de culture francophone, un peu partout dans le monde. Ils font partie du réseau des 90 libraires de l'AILF, l'Association internationale des libraires francophones que nous avons fondée il y a maintenant 15 ans.
Voilà, et on soutient évidemment tous les libraires francophones indépendants à travers le monde. On se battra toujours pour eux tant qu'on sera là, avec donc ce catalogue qui met en perspective 19 libraires du monde arabe, avec les coups de cœur de ces libraires et le catalogue, vous l'avez dit Agnès, téléchargeable sur Internet. Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Nimrod.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu.
Merci
à nouveau.
Beaucoup.
Les fidèles auditeurs de la librairie francophone vous connaissent déjà. Vous êtes un écrivain, essayiste et poète d'origine tchadienne. Vos récits poétiques « L'or des rivières » paru chez Actes Sud nous avaient éblouis en 2010. Cette anthologie parue chez Poésie Gallimard qui vient de sortir, c'est une consécration pour vous?
Oui, c'est ce qu'on me dit, ça me laisse plutôt pantois.
Ça vous laisse pantois?
Oui, parce que André Velter m'a téléphoné au mois de juin l'année dernière en me disant « Chers messieurs, je voudrais vous accueillir dans cette anthologie ». Je pouvais pas dire non. Bon, j'y suis, c'est tout. Et comme nous autres francophones, nous sommes périphériques en général dans ce genre d'enjeux. Donc voilà, maintenant on me regarde, on me dit je suis consacré. je sais pas ce que ça veut dire, mais tant
mieux.
En tout
cas, c'est formidable.
Ah, mais
parce
ça,
parce que
c'est sûr.
La poésie vous suit depuis la jeunesse, depuis l'enfance. Quand vous quittez le Tchad pour la Côte d'Ivoire afin d'étudier la philosophie, vous lisez Senghor, Césaire, Saint John Perse, mais aussi le Guadeloupéen Guy Tyrolien, dont on célèbre d'ailleurs cette année le centenaire de la naissance en Guadeloupe, mais aussi en métropole en France. Ce sont des auteurs qui vous ont donné l'impulsion pour écrire?
Ah mais oui, un auteur c'est toujours une bibliothèque, n'est-ce pas? C'est une bibliothèque qui forme un auteur. Donc sans ces auteurs-là, surtout quand on vient du Tchad où il n'y a pas vraiment une école française, je n'ai pas été formé par une école française, je me suis fait de briques de broc dans un désespoir sans nom. Et donc pour être là où je suis... Le mot miracle n'est pas galvaudé. Donc,
quelle concession vous avez dû faire pour arriver là?
Tout à l'heure, notre ami disait « J'ai dû faire des enfants pour me sauver. » Moi, j'ai dû assumer la solitude hors du Tchad et hors de tout le monde pour pouvoir à peu près arriver à faire ce que c'est qu'un verre. Voilà. C'est
vous avez dû quitter votre famille, c'est ça?
Quitter ma famille.
Vos enfants
tout,
aussi.
Tout. Le Tchad n'est qu'un pays de soldats, n'est qu'un pays en guerre. Si j'y restais, je mourrais. Voilà.
Et vous dites d'ailleurs dans cette anthologie vouloir retrouver l'Afrique telle que vous auriez aimé la vivre et la connaître. Quelle est l'Afrique que vous auriez aimé vivre et connaître?
L'Afrique de mon enfance, l'Afrique telle que je l'ai dit dans mon premier roman.
L'Afrique apaisée, c'est ça?
Cette Afrique où j'étais ce gamin qui se baignait au moins 10 heures par jour. ce bonheur-là, je ne le retrouverai jamais. J'ai trouvé des gens, parce que pour dire des bêtises, nous sommes très très doués. Ils disent, au Nimrod, on t'envie parce que vous avez la guerre, et vous avez pu écrire cela. J'ai dit, je vous la laisse la guerre, si vous voulez bien.
On va laisser la parole à Dominique Bressou en Suisse qui a lu cette anthologie. Dominique, qu'en pensez-vous?
C'est magnifique. Ce qui m'a vraiment frappé dans ce recueil, c'est la diversité des poèmes, votre constant renouvellement dans l'inspiration pour servir l'émotion, et cela que vous fustigiez des injustices ou que vous rendiez hommage à vos parents. Avec cette passion pour le beau qui transparaît dans vos poèmes, vous ajoutez du rêve au rêve en changeant notre regard et en nous montrant l'invisible.
C'est vrai, Nimrod, que dans vos poèmes, vous prenez la défense des peuples opprimés. Vous rendez aussi hommage aux étudiants tchadiens violentés en mars 2015 ou aux mineurs assassinés par la police en Afrique du Sud en 2012. Mais au lieu de condamner en faisant l'inventaire des horreurs, vous préférez la suggérer. Et vous dites que la création littéraire doit être pudique face aux violences du monde.
Mais c'est d'ailleurs ce... Que fait le langage? Le langage, c'est de nous donner l'être et de nous donner l'existence dans la distance. Qu'est-ce que c'est que de faire ces catalogues d'horreurs comme si on voulait retrouver le charnier, le vrai?
Ça ne sert à rien, ça.
Alors, étripons-nous, ne faisons plus de la littérature.
Ce serait du reportage, si on faisait ça.
Mais quel reportage? Le plus mauvais de reportage. Qu'est-ce qui fait que le cinéma, la poésie, le roman fait que nous pleurons volontiers alors que devant le charnier, nous n'arrivons pas à pleurer? C'est cette valeur ajoutée qui fait que la littérature ou le cinéma ou la peinture arrive à donner quelque chose comme cela. On peut l'appeler le beau ou je ne sais quoi. C'est cette distance, où, je ne sais quel nom, mais ce quelque chose qui fait que ça le transcende.
On va écouter le son du monde de la semaine, Nimrod. Le principe, une musique habillée d'une voix. La voix va lire votre poème « In Memoriam Rwanda ». C'est Sylvain Tesson qui a accepté de vous lire. Le week-end dernier, c'était au bord de la Méditerranée, sur la presqu'île de Gien, lors de la fête du livre de hier en France. Sylvain Tesson lit Nimrod sur la musique du musicien rwandais John Bitwa.
Urakaza neza habyara imana ha urakaza neza.
In memoriam Rwanda. L'éclat bleuit à la nuque d'un enfant et le feu du soir est sans espérance. Cet été-là, l'hémorragie fut silencieuse et la lumière enfouissait l'humus. Ce fut comme un rire idiot sous la chaux. Quand on ne rit plus, pauvre carne, une dent claire au plus clair de l'espace. Quel butin ce fut là porté à ras-bord. Quelle fleur frayée au fer à nos oreilles. Sur des collines paisibles, nous butions au désert. Seul, sentant la clameur des charniers, l'humus est carnivore.
Une réaction, Sylvain Tesson, à ce poème de Nimrod.
Il me confirme dans l'idée que la poésie a une portée plus forte que n'importe quel document journalistique, y compris pour les grands tourments récents de l'actualité.
Vous en lisez de la poésie, vous, Sylvain Tesson? Vous avez essayé d'en reproduire, d'ailleurs, ou jamais?
Jamais, mais je lis des poésies qui me font penser aux poèmes que vous venez d'entendre là et qui sont des poésies de Gérard Chalian. Gérard Chalian est un homme qu'on n'attendait pas sur le terrain de la poésie. Voilà un homme qui connaît l'Afrique et qui connaît le monde des conflits et qui connaît le monde des génocides. Et on a une poésie qui a des similitudes, des échos avec ce qu'on vient d'entendre de Nimrod, notamment dans cette capacité de porter un regard d'observateur, quasiment de reporter, mais poétique, qui ne se s'épargne jamais l'idée que toute parole, tout verbe, même quand il s'agit d'un document du réel, peut être poétique.
Merci beaucoup, Sylvain Tesson.
Merci. Merci.
Le son du monde avec Sylvain Tesson, donc il lit Nimrod. Une réaction, Nimrod?
J'allais dire un gros mot, j'allais dire « vous m'avez laissé sur le cul ». Non, mais c'est l'une des beautés des livres, elles vont là où nous n'allons pas. Et je ne savais pas comment vous avez mis ce livre-là entre les mains de Sylvain Tesson que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais que par ses livres. Voilà.
En lui demandant tout simplement, parce que c'est un fidèle de notre club francophone, on va dire.
Mais il fallait.
Chaque semaine, on se retrouve comme ça à croiser les auteurs.
Mais.
Et il est ravi de vous connaître maintenant, parce qu'il ne vous connaissait pas, il m'a dit qu'il allait acheter tous vos livres. Donc vous voyez.
Mais oui, il a ses livres dans ma bibliothèque. Et merci beaucoup et de cette rencontre comme ça qui me tombe comme ça sur la gueule et je suis bouleversé.
Bon, merci beaucoup Nimrod. Dans cette anthologie, vous écrivez une phrase qui illustre ce qu'on vient d'entendre. Vous dites « Je m'efforce seulement de faire émerger la beauté d'où qu'elle vienne ». On va laisser la parole à Annick Dor qui est en Belgique et qui est séduite par votre poésie aussi, Nimrod. C'est carton plein aujourd'hui. Allez-y Annick.
Oui, alors c'est vrai que c'est toujours délicat de commenter de la poésie. Mieux vaut, je pense, s'y plonger, hein, ce que je conseille à nos auditeurs. Je dirais juste que ce qui frappe d'emblée en lisant ces textes, c'est la grande épure. Et à travers vos mots, c'est vrai qu'on sent tout l'amour, tout votre amour pour la langue française et aussi pour l'enfance, ce qui m'a frappé. Et donc voilà, tout est fluide, je dirais, comme la douceur du bois flotté, pour revenir à votre titre.
Les deux critiques sont d'or.
Ça vous
merci
va.
Merci beaucoup.
D'accord. Pour rebondir sur ce que disait Annick, dans Ivresse rimbaldienne, vous dites Nimrod, l'enfance est un passeport égaré le long des routes indélicates. Pouvez-vous expliquer quelles routes indélicates?
Je ne vais pas parler en général, mais la mienne. J'aurais l'immodestie de me citer dans un récit autobiographique. Je fais ce constat, j'ai dit... Je ne sais pas comment j'ai échappé à tant de misère. Ce n'est pas que je m'apitoie sur moi, mais c'est terrible quand même. Et dans ce pays qui est le mien, je repars tous les ans. Au début, il y a encore 30 ans, je repartais, je faisais 3 mois. Maintenant, je suis incapable de faire 10 jours. c'est pourtant devenu un pays très très prospère à cause du pétrole, mais d'une violence. Au début, on avait la guerre, on était encore humain. Maintenant, on a la richesse. Le pétrodollar nous a rendus complètement inhumains, complètement insupportables. Et je ne sais que faire. Cette phrase que vous avez citée traduit cela.
Très bien, merci beaucoup Nimrod. On va rester sur cette émotion intense hein, en plateau, je peux vous dire, avec Lisa Asuelos et Claire Castillon qui vous observent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotion. J'aurai un royaume en bois flotté, anthologie personnelle est parue chez Poésie Gallimard, dans un format poche d'ailleurs, qui sera vous accompagner partout où vous le souhaitez. Merci Nimrod.
Merci Emmanuel.
Et dans cette plus grande librairie du monde, on part au Canada avec Jérémy Laniel. Coup de gueule ou coup de cœur, Jérémy?
Coup de cœur, Emmanuel, ce qui est quand même impressionnant. C'est pour un essai, Drone de guerre de Guillaume Lavallée aux éditions de Boréal. C'est un coup de cœur pour ce journaliste de l'AFP, hein, Guillaume Lavallée, qui a vécu au Pakistan juste après les attentats du 11 septembre. Et c'est donc tout ce monde arabe complètement changé, bouleversé par cette date fatidique, cette rencontre avec l'Orient, cette transformation. Lavallée signe un texte pertinent, bien ficelé, qui remet vraiment brillamment les choses en perspective.
Drôle de guerre, c'est aux éditions Boréal. Merci Jérémy. Dominique Bressoux pour la Suisse, un coup de cœur?
Ah non, non.
Un coup de gueule.
Un coup de gueule et un énorme coup de gueule.
Voilà, allez-y.
Sur la concurrence déloyale exercée par certaines chaînes commerciales. Parce que maintenir une librairie indépendante à flot, c'est déjà en soi une performance. Et en Suisse, une certaine grande enseigne française étend ses tentacules et en important des livres directement en grande quantité, peut se permettre d'offrir des rabais, uniquement sur les best-sellers évidemment, puisqu'il n'y a pas le prix unique du livre en Suisse.
Eh oui.
Alors, les lecteurs sont-ils gagnants? Moi, j'en suis pas sûre du tout. Ce qui est sûr, c'est que la culture, la diversité et la vie locale n'y gagnent pas. Et j'oubliais, il y a une libraire francophone qui ne viendra plus à votre émission, Emmanuel.
Oui, oui.
Elle ferme le 30 mai.
Oui. Exactement, oui, c'est une libraire suisse et on pense beaucoup à Florence Bourdin en ce moment même. Merci pour ce coup de gueule, Dominique. Il faut rappeler, on va vous le dire, on vous le redira tout le temps, qu'il faut absolument acheter vos livres dans les librairies indépendantes. C'est la sauvegarde de la culture, c'est la liberté de la culture, toutes les libertés qui sont en jeu. Il faut absolument acheter ces livres, même s'ils coûtent 1 euro ou 1 franc suisse de plus. Voilà, merci Dominique. La librairie francophone avec Lisa Azuelos, Nimrod, Sylvain Tesson et Claire Castillon. Nous allons parler des ados avec vous, Claire. Des ados en révolte, des ados qui ont des problèmes de relation avec leurs parents, avec la société. Vous étiez quel genre d'ado, vous, Claire?
Je pense que j'ai jamais été une adolescente. J'ai l'impression que je suis passée volontairement de l'enfance à l'âge adulte en faisant un grand pas, pas si grand que ça d'ailleurs. Peut-être que c'est sur ce pas aujourd'hui que je me retourne et que je me penche. Enfin, en tout cas, je regarde ce qu'il y avait dessous.
Vous avez comblé le vide aujourd'hui avec ce livre. Vous êtes devenue adolescente 29 fois, car il y a 29 ados. Bon, on en parle tout à l'heure. Claire Castillon, voici en avant-première, avant cela, l'extrait d'un album qui sortira mi-juin et qui rassemble des reprises des grandes chansons de Barbara, interprétées par des chanteuses contemporaines. Voici la béninoise Angélique Kidjo qui reprend Soleil Noir dans la librairie francophone.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie, plus jamais du ciel ou jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes, je me suis enfuie sous des ciels plus légers, pays de paradis. Oh que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres, et vous ferez le bruit de nos retintes amarres. Des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont le feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire. Et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, vous pouvez me croire. Je reviens fatigué, et j'ai le désespoir. Légère si légère, j'allais court vêtue. Je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare. J'ai frissonné. sonner du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir avec les langues vagues de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la hache de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas, quelque part. Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir. Des hommes sont murés tout là-bas, quelque part. Les hommes sont murés et c'est le désespoir. J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli. J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui. Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard. Qui me menait ici, ailleurs ou autre part. Où la fleur était rouge, où le sable était blond. Où le bruit de la mer était une chanson. Oui, le bruit de la mer était une chanson. Mais un enfant est mort, là-bas quelque part. Mais un enfant est mort, et le soleil est noir. J'entends le glas qui sonne, tout là-bas quelque part. J'entends le glas sonner, et c'est le désespoir. Je ne ramène rien, je suis écartelée. Je vous reviens ce soir, le cœur égratigné. Car de les regarder, de les entendre vivre, avec que j'ai eu mal, avec que j'étais ivre. Je ne ramène rien, je reviens solitaire. Du bout de ce voyage, au-delà des frontières. Est-il un coin de terre où rien ne se déchire? Et que faut-il donc faire? Pouvez-vous me le dire? S'il faut aller plus loin pour effacer vos larmes. Et si je pouvais seul faire taire les armes? Je jure que demain je reprends l'aventure, pour que cesse à jamais toute cette déchirure. Je veux bien essayer, et je veux bien y croire. Mais je suis fatigué, et mon soleil est noir. Pardon de vous le dire, mais je reviens ce soir. Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir. Le cœur est gratigné et j'ai le désespoir.
Angélique Kidjo avec Soleil Noir, reprise de Barbara, vous l'avez reconnu, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Claire Castillon est dans la librairie cette semaine pour son recueil de nouvelles Rebelle un peu aux éditions de l'Olivier. Alors Claire, vous êtes mise dans la peau d'adolescent et surtout d'adolescente dans de courtes nouvelles, ciselées, ajustées, précises. Il y a le rapport aux parents qui est très compliqué, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement social, on n'y échappe pas.
Oui, je pense que en racontant des histoires sur les adolescents, forcément, j'ai croisé leurs parents, enfin, en tout cas dans ma tête. Et puis, il y avait un thème qui me tenait à cœur, c'était le thème des parents amoureux. Parce que je me disais que très souvent, on parle des enfants qui souffrent ou du divorce de leurs parents, etc. Et puis, je me disais, mais il y a plein d'enfants qui souffrent de l'amour de leurs parents, dont ils se sentent radicalement exclus ou étrangers, peut-être qu'ils s'aiment trop, peut-être que si je rentre dans la pièce où ils sont, je vais déranger. Et il y a pas mal de nouvelles qui parlent de ça aussi, du coup.
Oui, c'est vrai.
Et puis sinon, des parents qui veulent savoir ou des parents qui comprennent pas, mais ça ensuite, c'est l'évidence.
C'est classique. Et il y a dans cette première nouvelle, cet ado qui dit « Je voudrais des parents qui éclaboussent. Ils ressemblent à deux rats de corridor. J'ai honte quand mes amis viennent. Même bronzés, mes parents sont gris. »
Mais oui, c'est l'histoire d'une jeune fille, en effet, qui part en classe de neige, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, ses parents l'accompagnent au car. Et donc, elle est terrifiée parce qu'elle les appelle la taupe et le pingouin, parce que lui est en costume, très austère, le matin. Elle a ses yeux tout bouffis du réveil. Et elle se dit, au secours, il faut qu'il parte, il faut que je grandisse tout de suite, quoi. Et puis, en fait, la classe de neige ne se déroulant pas exactement comme elle l'espérait, on constate que la taupe a du bon et que le retour est attendu et espéré. Mais il y a beaucoup de choses sur la honte.
Ouais, Alors, c'est vrai que le retour est toujours espéré parce qu'à cet âge, paradoxalement, ce sont les parents avant tout. Il y a Mathis, par exemple, qui n'arrive pas à se détacher de sa maman. Pourtant, il tente de prouver l'inverse. Il fait sa vraie crise d'ado, il se replie dans sa chambre, il ne fait plus de bisous, plus de contacts, il parle peu à part en faisant des grognements, enfin il râle tout le temps en substance. Mais c'est sa maman qui lui manque tout le temps.
Et lui, il est obsédé par sa mère. C'est une autre sorte d'enfant. Il est amoureux, en fait. Donc, il trouve son père particulièrement nul et il sait comment la rendre heureuse. Il sait où l'emmener. Il sait qu'il dormira avec elle dehors, au pied de la tente, et qu'ils seront bien.
Bah, c'est très touchant, ça.
Oui. Enfin, ça me touche. Si, ça me touche.
Vous
parce
écrivez
que
des choses qui ne vous touchent pas, en fait.
Bah, je pense que j'écris des choses qui me percutent. Après, pour le temps que je me dise que ça m'a touchée, ou je ne sais pas si ça me touche ou si ça m'éclabousse, justement, mais en tout cas, ça me fait quelque chose.
Il y a l'intégration dans un groupe qui est très, très importante. Pour les ados, c'est très important. Comment devient-on populaire au collège ou au lycée? C'est la question qui préoccupe tous les ados. Comment on fait, Claire Castillon? Vous avez fait comment, vous?
Moi, j'étais pas du tout populaire, mais à mon époque, il n'y avait pas un mot pour dire populaire. Moi, je pense que j'ai passé toutes mes récréations aux toilettes pour être sûre de justement pas affronter les regards. J'avais des amitiés très, très exclusives je marchais avec une personne. Donc, si mon amie était absente, en général, je restais dans un coin. Donc, je sais pas ce que c'est que tout ça. Mais justement, je pense que ça m'intéresse parce que quand on m'a parlé de ce groupe, le populaire, aujourd'hui, je me suis dit, waouh, mais comment supporter une journée au collège ou au lycée si quand on arrive, déjà, il faut être, comme ils disent, validé par une sorte de chef qui va dire si on est bien habillé ou pas. Et je me dis, mais quelle est la jeune personne qui a assez d'humour, assez de force de caractère, assez de liberté, assez pas peur pour dire j'en ai rien à foutre et je mettrai un jogging. Ce qui me touche là-dedans, c'est en effet les enfants qui s'en sortent pas et qui se disent au secours, je peux pas changer de pantalon tous les jours, du coup je sais pas si on va m'aimer.
L'habit fait le moine chez les ados. Il y en a une qui dit, tu commets une erreur une fois et tu es grillé à jamais. Bonne chance à tous les parents qui nous écoutent et à tous les ados parce qu'il va falloir redresser le moral. On va laisser la place à deux libraires qui ont lu votre recueil de nouvelles, Claire Castillon. Agnès est en Égypte dans la librairie El Dounia. Comment s'est passé votre lecture, Agnès Auker?
Alors, ce livre assez court et profondément humain est finalement une très bonne surprise pour moi. Et d'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir de la part de Claire Castillon si ces ados existent tous et d'où a-t-elle puisé l'inspiration de ces personnages avec des mots aussi justes. Parce que le décalage entre la vision de l'adolescent et celui de l'adulte est réel, parfois énorme, et tous deux idéalisent leur monde et érigent en exemple leur propre code. Et finalement, c'est un petit peu le livre qu'on a envie de conseiller à tous ceux qui ont des enfants qui approchent de l'adolescence en leur disant « Attention, il y a leur vision et puis il y a la vôtre, et entre les deux, il peut y avoir un gouffre. » Et franchement, c'est une très très belle surprise ce livre.
Claire Castillon, sont des vrais ados? Vous êtes inspirée de la vie réelle de certains?
De certains, oui, mais pas directement comme ça. Mais parfois, il m'arrive, je sais pas, d'être au parc. Et puis, je me souviens d'une anecdote comme ça où j'ai vu deux ados qui s'embrassaient. Donc vraiment, ils s'embrassaient comme on s'embrasse quand on est ado. Et puis, entre deux pelles, en fait, ils se parlaient tout à fait normalement d'autres choses. Et donc, il y avait un décalage. Je me disais, ouais, j'en ai marre parce que j'ai eu zéro en maths et en même temps. Et hop, et ils repartaient dans un baiser enflammé. Et vraiment, presque, enfin voilà. Donc, j'étais à côté. Je me disais, waouh, quelle cadence, en fait. Et quelle violence. Et je pense que c'est ça qui m'inspire au-delà des histoires claires et nettes des ados que je peux croiser ou connaître.
Il y a peut-être instants de vie,
Oui, ou le timbre des voix à la sortie des lycées, des choses comme ça.
Ah, c'est génial. C'est super, le timbre des voix. Annick Dor, en Belgique, d'accord, pas d'accord avec votre collègue, Agnès?
Ah, tout à fait d'accord. C'est vrai que la nouvelle, c'est vrai que c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement. Donc j'étais ravie de me plonger évidemment dans ce recueil. Et puis voilà, vous saisissez, c'est vrai, tout, par exemple la détresse de certains jeunes, mais aussi leurs petits calculs et simulations comme ça, voire parfois un peu les manipulations qu'ils ont. Et puis voilà, vous croquez brio cet âge entre insouciance et prise de conscience. Et voilà, une fois de plus, comme dans beaucoup de vos recueils, c'est vrai que vous nous prouvez que vous avez vraiment un grand sens de l'observation et que vous visez très juste.
Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, Claire Castillon, dans ce livre. Il y a dans Arrête de faire ta drama queen, cette adolescente qui sombre dans la mélancolie à la mort de son camarade de classe, Mathis. Elle affiche un deuil à outrance, peut-être pour exister elle-même. Et on croit qu'elle se sert de la mort de Mathis pour s'inventer des souffrances. Mais c'est plus compliqué que ça parce que elle réalise surtout que les gens qu'elle aime peuvent mourir. Et ça change la perception des choses.
Oui, alors elle a sa façon, justement, ce ton pour le réaliser qui nous fait un peu ricaner, parce qu'en effet, elle a décidé depuis que cet étudiant était mort que c'était celui qu'elle avait toujours aimé, alors qu'avant, c'était pas particulièrement son copain. Donc, elle se réinvente, voilà. Mais elle est touchante parce qu'elle est en guerre, en fait. Elle a instauré le lever de doigt pour pouvoir sortir de la classe si jamais...
Si on se sent mal, oui.
Voilà, si on se sent mal en pensant à l'enfant, à Matisse, à l'ami mort. Donc, en fait, elle a l'impression de...
Elle se donne un rôle, oui.
Voilà, la mort l'impressionne.
Ce qui frappe dans vos histoires, Claire Castillon, c'est l'irresponsabilité des parents, ou du moins leur inconséquence. À chaque fois, ils passent à côté. À chaque fois. On a l'impression que quand on est parent, on passe forcément à côté de son adolescent. On rate un truc.
Bah peut-être qu'en effet, là, la seule mère qui passe pas à côté, c'est la mère de cet enfant qui ne peut plus bouger et qui communique par la pensée, où en effet, on sent que chaque chose est tellement infiltrée dans le corps, dans le geste, dans la douceur. C'est une espèce d'harmonie totale entre cette maman et cet enfant
malade.
Oui,
là, c'est le cas extrême, oui.
C'est le cas extrême, mais sinon, en effet, on dirait qu'on se gorge de mots et qu'on perd le sens exact. Oui, bon, je pense qu'on se retrouve, mais qu'il y a pas mal de quiproquos.
Vous avez des ados, Lisa Azuelos? Oui. Vous avez raté un truc ou pas?
C'est adultes maintenant. À 40 ans, quand ma fille a eu 13-14 ans, j'ai revécu moi-même mon adolescence que j'avais jamais eu le temps de vivre.
Oui, d'accord. Oui.
Et du coup, j'ai été très au diapason. J'ai jamais réussi à jouer à l'adulte avec mes enfants.
Vous habillez comme elle, c'est ça?
Non, enfin, je m'habille comme je peux, mais j'adore les ados, en fait.
C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Hein. Il y a toujours des enseignements à tirer des ados.
Ah, ouais,
le mot de la fin, c'est pour un libraire, Jérémy Lagniel, pour le Canada. À vous l'honneur, Jérémy.
Oui, ce n'est pas la première fois que je le dis à ce micro, hein, la nouvelle. C'est un des genres littéraires les plus difficiles à maîtriser. Mais retomber dans l'univers de Claire Castillon, c'est pour moi toujours une bénédiction. Depuis Insect, il y a quand même déjà plus de 10 ans, elle maîtrise l'art de la concision sans tomber dans le dictat de la chute. On se retrouve ou on se fantasme, hein, c'est tout comme dans chacune de ces situations, portant en conclusion cette fierté un peu, hein, d'en être sorti, on va quand même se le dire.
Oui, on est fiers d'en être sorti, peut-être. Je sais pas, moi j'aimerais bien retourner. Hein? Non, Elisa aussi. Bah ouais. Bon, vous avez séduit nos libraires, Claire.
Chouette.
Magnifique. Bon, vous reviendrez.
Bien sûr.
Peut-être. Merci, Claire Castillon. Merci beaucoup. Rebelle un peu est paru aux éditions de l'Olivier. 29 nouvelles autour de l'adolescence. Et comme l'ont dit nos libraires, c'est très réussi. Merci beaucoup, Claire.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone. Voici la chanteuse Natalia Moscou, artiste d'origine russe, japonaise et coréenne.
Mon amour, toi et moi, si on ne s'aime pas, n'allons pas salir par le monodrap. Il faut qu'on délaisse toute la tendresse, gardant que le cru, le doute des caresses. On se touche en lutte contre la solitude.
Natalia Moscou, Amour par défaut, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Lucas Vaillant, Djoubaka à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouet en Suisse. René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguay et Sylvie Julien au Canada. À la semaine prochaine, même jour, même heure sur votre radio francophone avec Jean-François Haas, Vincent Monadet, Régine Détambelle, entre autres. Bonne semaine, bon week-end. À bientôt.